France Culture.
Tout de suite, place au point culture de Marie Sorbier. Bonjour Marie.
Bonjour Marie. Viennent de paraître aux éditions Le Condottiere des pages inédites d'André Soares, écrivain français mort en 1948 et considéré de son vivant comme l'un des plus grands poètes, essayistes et polémistes de sa génération. Redécouvrir l'esprit et la lettre d'André Soares, c'est le dossier du point culture du jour.
Stéphane Barsac, bonjour.
Bonjour chère Marie.
Vous êtes écrivain, éditeur et vous venez de réunir des pages inédites d'André Soares dans un ouvrage paru aux éditions Le Condottiere. Quel type de texte trouve-t-on dans ce livre Ariel dans l'orage ?
Dans ce livre, c'est simple, on trouve tout Soares, c'est-à-dire le génie absolument incomparable d'un homme qui est non pas un grand écrivain du XXe siècle, mais simplement un des plus grands écrivains à l'échelle de toute notre littérature. C'est-à-dire que chacune de ces pages contient un art tout à fait étonnant, qui mêle d'aphorisme en aphorisme un sens de la poésie, des vues philosophiques, des traits moraux, des réflexions sur la littérature, mais aussi bien sur l'histoire, sur la musique, sur absolument tout. Donc c'est un livre qui, d'une certaine manière, est un monde à lui tout seul.
Où est-ce que vous les avez trouvés, ces inédits ?
Alors, c'est un travail de 30 ans de recherche. Il se trouve que lorsque les Allemands sont arrivés à Paris, Soares a dû quitter précipitamment sa demeure, et les Allemands ont pris possession de toutes ces affaires, et donc elles ont été dilapidées. Et après la guerre, il est mort d'épuisement, si bien qu'il n'a jamais pu en fait mettre à jour tout ce travail. Et patiemment, voilà, depuis une trentaine d'années, de journaux en journaux, de revue en revue, j'ai épluché tout ce qu'on pouvait trouver pour pouvoir justement piquer les textes inédits en volume et que pour la majorité, personne ne connaissait.
Alors vous l'avez dit, c'est un des plus grands écrivains, mais comment expliquez-vous qu'il soit aujourd'hui moins connu et moins lu que ses amis Claudel ou Gide par exemple ?
Alors il faut savoir que Claudel a eu la très grande force du théâtre et Gide a eu la très grande force du roman. Pour eux, c'était un alter ego, et d'ailleurs pour tous les contemporains, mais Soares est d'une certaine manière un écrivain plus secret parce qu'il écrit des proses qui sont destinées en fait à la lecture chez soi. Donc il n'y a pas de possibilité de mise en scène, il n'y a pas non plus de grand récit. En revanche, il y a une vision sur l'ensemble de l'humanité à travers toutes ses plus grandes créations et puis aussi tous ses plus beaux paysages. Si bien qu'on a un écrivain qui nous fait rentrer dans l'intimité de son cœur et quand on le prend, même si on ne l'a jamais lu, c'est simple, on ne peut plus le quitter.
Alors, il n'a jamais écrit de roman, Soares ?
Non, il n'a jamais écrit de roman, mais en revanche, il a écrit merveilleusement sur le roman des autres. Il faut lire ce qu'il a écrit sur Stendhal, sur Dostoïevski, sur Tolstoï, sur les analyses les plus géniales qui soient, simplement parce qu'il se met au diapason de ce dont il parle, et en fait, à l'intérieur du livre, il redevient à son tour ou Stendhal, ou Dostoïevski, ou Tolstoï.
Quels sont les grands sujets qui l'ont préoccupé, André Soares ?
On peut dire que c'est un homme qui s'est battu en fait toute sa vie pour la vérité et la liberté. Donc ça a été d'abord un poète, mais aussi un polémiste. Il a pris part à tous les combats de son temps, depuis l'affaire Dreyfus jusqu'au combat antifasciste et anti-nazi, et toujours avec une idée qu'il fallait affirmer un bien supérieur, c'est-à-dire le bien de l'honneur, le fait de ne pas transiger avec le mensonge, et le fait du coup de rendre justice à tout ce qui est vivant et vivifiant, c'est-à-dire la beauté et au-dessus de tout l'amour.
Mais qui le lisait à l'époque ?
Ah ben c'est simple, toute l'Europe. C'était un des écrivains les plus importants de son temps. C'était, comme disait Malraux, le maître de toute cette génération, alors qui va de Malraux à Monterland. Et donc, il était considéré comme une référence obligée aussi bien par Rilke que par Joyce, par Unamuno ou par Zweig, qui d'ailleurs, quand on regarde l'œuvre de Zweig, en fait, est une œuvre qui est copiée de celle de Soares.
Comment pourriez-vous définir le style de Soares en quelques mots pour des gens qui l'auraient jamais lu ? À quoi ça ressemble, cette langue-là ?
Alors, l'unité de Soares tient effectivement à son usage du style. C'est un style qui est simplement somptueux. Vous savez, il y a quelques années, ça doit exister encore, des livres avec le bandeau « Ce livre pour les nuls ». Alors Soares, c'est quelqu'un qui fait exactement le contraire, c'est-à-dire qui ne vous prend jamais pour un nul, qui vous hisse, qui vous met au-dessus de vous-même. Et donc, effectivement, il a une prose qui, d'une certaine manière, est un condensé de siècles et de siècles de culture. C'est-à-dire que c'est aussi bien le style biblique, celui qu'on voit chez les prophètes comme Isaïe. C'est le style de Montaigne, c'est-à-dire l'essayiste qui se cherche lui-même. Mais c'est aussi bien le style de Rimbaud, c'est-à-dire la vision de feu. et avec cette particularité qu'il a fondu tous ses styles en un et qu'il offre justement, à travers chaque phrase, j'ai envie de dire, un condensé de toute la culture humaine depuis 3000 ans.
Votre ouvrage dans lequel vous réunissez ces pages inédites s'appelle « Ariel dans l'orage ». D'où vient ce titre ?
Alors Ariel, évidemment, c'est le personnage de Shakespeare dans La Tempête, d'où la notion d'orage. C'est le titre qu'avait donné Suarez lui-même à un texte qu'il a fait paraître avant que les Allemands n'arrivent à Paris. Avec une idée, c'est que Ariel, c'est le génie de l'air. L'orage est là, il est de tous les temps, entendons-nous, il est d'aujourd'hui aussi bien, sur les textes qui sont prophétiques. Et donc, c'est un livre qui nous dit comment nous tenir droit, comme Ariel, face à la tempête et éventuellement la dompter. Donc il y a cette idée que face aux rigueurs du temps, face à l'horreur qui nous environne, il y a toujours la possibilité d'une échappatoire qui est la poésie. Et cette poésie est justement la manière de dompter l'indomptable.
Quand vous dites qu'il y a des textes prophétiques, vous pensez à quoi par exemple ? Quels thèmes sont abordés par Suarez ?
Suarez, c'est quelqu'un qui le premier voit qui est Mussolini, il l'appelle Napoléon primaire. C'est le premier qui voit aussi qui est Hitler. Il l'écrit à longueur de texte. Il voit très bien que derrière l'apocalypse se prépare. Et avec une vision quand même très précise de ce qui a eu lieu. Alors vous savez, il y a deux manières d'avoir tort, c'est d'avoir tort et puis d'avoir raison trop tôt. Et c'est vrai que pour les contemporains, ça a été prodigieusement agaçant parce que on voyait quelqu'un qui disait l'horreur se prépare et de fait elle a eu lieu. Et donc il y a cette vision effectivement que au nom de ce qu'il y a de plus beau, quand on trahit ce qu'il y a de plus beau, très vite on tombe dans l'immonde. Et c'est pour ça qu'il y a quelque chose qui est très touchant chez lui, c'est que cette quête de la haute culture, en fait, c'est simplement la quête de l'humanité qui nous prémunit contre tous les excès de la barbarie.
Dernier clin d'œil, Stéphane Barsac, avant de conclure notre entretien. Ce livre, il est publié aux éditions Le Condottiere. Le Condottiere, c'est aussi un titre d'une œuvre de Suarez.
Oui, c'est le livre le plus connu de Suarez, qui s'appelle Voyage du Condottiere, qui est une épopée mystique à travers l'Italie, où il passe de Florence à Sienne, et qui est une manière d'aborder la question de la Renaissance. Alors, il se trouve que l'éditeur des éditions Le Condottiere, fanatique de ce livre, a décidé d'appeler sa propre maison Le Condottiere en hommage à Suarez. Donc il était logique d'une certaine manière que Le Condottiere, c'est-à-dire Suarez, revienne chez lui.
Bien, merci beaucoup pour cette présentation d'André Suarez, Stéphane Barsac. Merci.
Merci, chère Marie.
Et dans le reste de l'actualité culturelle, chère Marie, les conservatoires en grève.
Suite à l'appel du syndicat des artistes interprètes, les enseignants des conservatoires supérieurs de musique et de danse de Paris et de Lyon se sont mis en grève aujourd'hui. Reconductible sur un mois, cette mobilisation vise à protester contre le non-renouvellement des grilles de salaire qui sont identiques depuis 2003. Les enseignants sont payés 1 330 € net lorsqu'ils entrent en fonction et leur salaire n'atteint que 1 650 € en fin de grille. Pour les professeurs, ces rémunérations ne seraient pas adapté au niveau des qualifications ni aux exigences artistiques nécessaires pour accéder à ce type de poste.
Des milliers d'artistes demandent à Christie's l'annulation d'une vente aux enchères.
Oui, la maison de vente américaine Christie's doit organiser à partir du 20 février prochain la première vente uniquement dédiée à des œuvres créées par l'intelligence artificielle. Parmi la vingtaine de lots proposés, tous ont été produits par des robots dirigés par des IA. Une vente qui crée la polémique puisque 3000 artistes viennent de signer une pétition demandant son annulation. Ils reprochent au logiciel de s'entraîner à partir d'œuvres protégées par le droit d'auteur sans aucune autorisation préalable dans leur pétition. Il déclare ainsi « Votre soutien à ces modèles et aux personnes qui les utilisent récompense et encourage davantage le vol massif du travail des artistes humains par les entreprises d'IA ».
Et pour finir, Marie, débute aujourd'hui le festival Effraction à Paris.
Et pour sa 6e édition, cet événement gratuit dédié à la littérature contemporaine propose une trentaine de manifestations dans plusieurs lieux de la capitale. Le festival continue d'interroger les liens entre le réel et la fiction, avec une place importante donnée cette année à la question de la résistance. Alors vous pourrez par exemple assister ce soir à une rencontre avec l'écrivaine Lola Lafont autour du thème « Regardez le monde à juste distance » ou bien venir voir une performance du slameur Dede Cabal autour des violences invisibles. Le festival Effraction se déroule jusqu'à dimanche et bien sûr, si vous voulez plus d'informations, rendez-vous sur la page du Point Culture.
Merci Marie et on se retrouve demain pour d'autres actualités culturelles. En attendant, il est 13h et vous êtes sur France Culture.